Ohua.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans Sporama. Eric Manilakiza avec vous, Lionel Lunamila Gahima assure la mise en onde. Au bout d'un tournoi riche en surprises, la Coupe du Monde s'achemine vers son dénouement au Qatar, où le rêve absolu d'atteindre et de gagner la finale programmée au stade de Lusail accapare les demi-finalistes avant Argentine-Croatie mardi, demain, et France-Maroc mercredi. Première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde et invitée surprise de ses demi-finales, le Maroc y est parvenu au prix d'un courage admirable et d'une défense de fer au fil d'un parcours redoutable qu'il a vu affronter en poule la Croatie, vice-championne du monde, et la Belgique, troisième du précédent mondial, avant de se frotter avec succès à deux grandes puissances du football mondial, l'Espagne puis le Portugal, en phase à élimination directe. Pour en parler, je suis en ligne avec nos consultants sportifs. Amine Birouk se trouve à Doha, au Qatar, où il suit l'équipe du Maroc. Amine Birouk, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Amédine Sy se trouve dans l'Ohio, à Columbus. Amédine Sy, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix Afrique. Mes félicitations encore à Amine Birouk qui est en train de réaliser un excellent parcours avec le Maroc.
Je signale Amédine que vous êtes cousin aux Marocains, n'est-ce pas?
Ah oui, on est des cousins. La relation entre le Sénégal et le Maroc, ça date de Montezolem. Amine, vous en dira un peu plus.
Nous sommes avec Élisée Ungpatine qui se trouve au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Toi, tu es au moins mon cousin. Il faut que j'ai un cousin aussi. dans cette édition de Sporama. Alors, nous attendons que Jules Valentin Gouet puisse nous rejoindre depuis Libreville. Amine Birouk, je commence avec toi. Est-ce que personne aurait imaginé le Maroc en demi-finale?
Bah, vous savez, si on l'avait dit à n'importe quel citoyen marocain au début de la Coupe du Monde, il vous aurait répondu par des adjectifs du genre inconcevable, irréalisable, impossible. Mais finalement, le coach ou le sélectionneur Walid Regragui a su impulser dans chacun des joueurs qu'il a emmenés ces 26 hommes, son commando, une foi inébranlable en leur destin, une foi et une confiance inexpugnable par rapport au plan de match qu'il a choisi. Et visiblement, ces petits soldats ont respecté à la lettre ces consignes. Ils ont abordé la compétition match par match et aujourd'hui, l'appétit est venu en mangeant. On ne rêve plus de remporter la Coupe du Monde, on l'envisage.
Vous l'envisagez, le Maroc qui a donc écrit l'histoire deux fois et qui devient aussi, confirmé son statut de favori. Élisée Ungpatine, comment vous avez vécu la victoire du Maroc au Bénin?
Eric, ça a été extraordinaire tout simplement. Ça a été extraordinaire, inédit et tout c'était. La joie totale a été dit puisqu'on l'attendait depuis des années. C'est vrai que chaque édition restait réalité et le Cameroun nous a montré que l'Afrique a les talents pour aller très loin dans une Coupe du Monde de football. Et ça a commencé en 90, en 94, le Nigeria avait la possibilité, mais elle a gâché. Et puis, en 2002, cette belle génération du Sénégal est aussi passée par là. Et après le Ghana 2010, mais à un moment donné, il manquait cette concentration après la qualification pour les quarts de finale. Et c'est ce que les Marocains ont compris. Et ils ont pris au sérieux cette qualification. Et bien, ce n'était pas tellement historique à leur niveau. Et ils se sont vite rangés et on ne commençait pas à préparer cette quart de finale et le résultat est là. C'est une très belle victoire devant une grande nation de football, non seulement, mais avec une très grande génération de football portugais. Cette génération qu'on voyait quand même hein, aller jusqu'en finale, si c'est vrai, elle suit le chemin de la France. Et on imaginait déjà une demi-finale entre portugais et français. Mais les Marocains ont changé les données, ils ont simplement été très bons, tactiquement d'abord, et plus solides que nos pays, donc ils ont que peut-être aussi dans les finales, ce sera pas le champion du monde. Il ne faudra pas dire encore que le Maroc a joué sa compétition, que le Maroc a fini avec la Coupe du Monde, mais tout est possible, et l'Afrique peut aller sur le jeu de ce trophée, et c'est ce que souhaite tout un continent.
Ahmedine, si. Le jour de cette rencontre Maroc-Portugal, vous avez porté le maillot du Sénégal, les Lions de la Teranga, sans doute pour vous consoler, les Lions de l'Atlas qui inscrivent leur nom dans la cour des grands.
Tout à fait, ils ont inscrit leur nom dans l'histoire du football mondial en offrant à l'Afrique sa première participation à une demi-finale de la Coupe du Monde. Et ils l'ont fait de fort belle manière parce qu'ils ont joué avec leurs armes. Ils ont montré qu'en football et en sport, rien n'est impossible. Désormais, on dira qu'impossible n'est pas marocain. Ils ont négocié de fort belle manière cette rencontre face au Portugal en jouant sans complexe, en se battant. Moi, j'ai une admiration pour Amrabat. Il a montré que qu'en football, qu'il fallait vraiment se mettre, se battre. Il était au four et au moulin. Il y a également cet excellent gardien de but qui s'est révélé à la face du monde. Il y a eu Bouffal qu'on sous-estimait un peu dans le championnat français. Mais vraiment, chapeau à ces Marocains, et je prie pour que ce rêve en continue, puisque une équipe qui sort l'Espagne, on connaît l'Espagne, je vous l'avais dit, et lorsque le Maroc rencontre l'Espagne, je vous avais dit que la possession sera espagnole, ça c'est sûr, mais les Marocains vont jouer avec leurs armes, c'est ce qu'ils ont fait face au Portugal, et je pense qu'ils le feront face à la France, parce qu'ils ont démontré à la face du monde que, contrairement à ce qu'on disait, que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Maintenant, c'est le contraire. La meilleure façon d'attaquer, c'est de défendre. Et les Marocains l'ont prouvé à la face du monde, Eric.
Amine, le Maroc qui a la meilleure défense du tournoi, c'est incroyable. C'était inimaginable.
Bah, vous savez, dans une maison, la première chose qu'on doit bâtir, c'est les fondations. Et dans une compétition, si on veut gagner un match, on doit avoir la meilleure attaque, mais si on veut aller le plus loin possible dans une compétition genre Cannes, Euro ou Coupe du Monde, il faut avoir une bonne organisation défensive. Cela n'implique pas seulement une défense, cela implique que les premiers défenseurs sont des attaquants. Et c'est le cas de l'avancement de l'équipe du Maroc, Youssef N'Ciri, parce qu'il est en train de battre tous les records de sprint. On le voit partout. C'est lui qui bloque les premières relances adverses, et puis il y a un travail de sable qui est fait par le milieu de terrain. Il y a la sentinelle qui est Amrabat, qui est au four et au moulin, et puis il y a la troisième ligne qui est composée de la défense, du quatuor ou du quintet de défense. Contre l'équipe du Portugal, l'entraîneur, le sélectionneur est passé à une défense à trois axiaux en raison de la blessure de Seis et de l'absence de Naïf Aguerd, et malgré l'absence de ses tauliers, en comptant sur des joueurs formés dans le championnat marocain qui sont partis il y a peu ou qui ont encore laissé des traces, l'équipe du Maroc a tenu face à l'armada portugaise avec à sa tête Cristiano Ronaldo. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Ce qu'on pointait du doigt concernant le footballeur africain, c'est qu'il était doué avec le ballon, mais qu'il avait tendance à ne pas faire le travail de replacement défensif, le travail de coulissage. Un joueur comme Ziyech, un autre comme Bouffal, qui sont des artistes du ballon, ils se sont astreints à respecter les consignes, à respecter leur rôle défensif. Et aujourd'hui, beaucoup disent que le Maroc est une équipe européenne. Non, c'est une équipe avec des joueurs formés, certes en Europe, mais avec une âme africaine, une âme maghrébine. Et aujourd'hui, ils se battent pour leur maman, ils se battent pour ces supporters qui viennent de partout, ils se battent pour tout un continent, puisque finalement, ils sont le porte-drapeau, le porte-étendard de l'Afrique. N'oublions pas que le Maroc a été la première nation à se qualifier pour une Coupe du Monde, la première nation africaine à se qualifier directement en Coupe du Monde en 70. Le Maroc a été la première nation à passer la première barrière psychologique du football mondial, c'est-à-dire le premier tour en 86. Et voici encore une fois le royaume chérifien au sommet de l'Afrique, en sorte, en locomotive, avec cette qualification historique pour la demi-finale, avec un socle défensif, une organisation défensive et un gardien de but qui est extraordinaire depuis le début de la compétition.
Jules Volanté est avec nous. Jules, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Oui, Jules, le Maroc a brisé le plafond de verre et sa victoire a sans doute relativisé l'idée d'un changement total d'époque. Qu'est-ce que vous attendez des Lions de l'Atlas mercredi face à la France, champion en titre?
Oui, mais il faut dire que au niveau de la Coupe du Monde, la représentation qu'on avait cette année par rapport à la restriction de la CAN nous montrait qu'on avait des très bons représentants à la Coupe du Monde. Bon, mais maintenant, la Coupe du Monde est une coupe. Et ça se joue en 7 matchs, comme l'a dit Samuel Eto'o. Et 7 matchs, ce n'est pas un championnat. Il faut être dans l'esprit coupe et l'Afrique a toutes ses chances. Il avait répété plusieurs fois à ses joueurs et je crois que Régal était en équipe, à l'écoute et il a écouté. Alors ça fait donc que quand vous vous préparez pour ces 7 matchs avec détail, en décryptant les adversaires de très près, et en sachant ce que vous allez faire, en sachant également que ces adversaires sont supérieurs à vous en temps normal par leur niveau technique, mais vous vous repliez dans un processus d'abord défensif, attentif, et puis vous transformez. Je me rappelle qu'en 1982, l'entraîneur français Jean Vincent l'avait fait avec le Cameroun à la Coupe en Espagne, et on l'avait critiqué au départ, et mais c'est ce que ça avait fait. Le pays était venu rentrer invaincu, un seul but encaissé, contre l'Italie, un match nul, et finalement l'Italie a gagné, et la Pologne qui était dans la même poule était sortie quatrième. Donc c'est pour vous dire que Regani a été modeste, il s'est mis et dans sa posture d'outsider, il a scientifiquement préparé la chose, sûrement avec des ordinateurs. Des auxiliaires importants qui lui apportaient toutes les informations. Et on a vu, par exemple, les Cristiano Ronaldo, les Morata, neutralisés dans les verts, ce qui se passe en Europe. Donc, tous ces joueurs étaient décryptés et c'est comme cela que le Maroc avance tout doucement, mais sûrement, et parce qu'après tout, c'est une Coupe du Monde, tout le monde joue à haut niveau, même si ce n'est pas le même haut niveau. Alors, l'espace de 7 matchs, on peut faire quelque chose.
Élisée, mercredi, est-ce qu'on peut continuer à rêver?
Bien évidemment, Eric, bien évidemment. Le Maroc, aujourd'hui, fait partie des 4 grandes équipes de cette Coupe du Monde, donc le dernier carré. Et quand on vient à demi-finale, eh bien, tout est possible. Il n'y a plus tellement de favoris. C'est vrai qu'en face, c'est la France tenante du titre, mais au vu du parcours du royaume chérifien, on peut dire que ça va être très, très, très disputé. Le Maroc a tenu tête à la Croatie finaliste, a battu la Belgique, a battu l'Espagne et le Portugal. Vous imaginez? Et c'est pour ça, il faut maximum de concentration afin de jouer à fond contre la France. C'est vrai que la France est une équipe redoutable, il faut le dire, reconnaissant. La France joue en fonction de son adversaire. La France l'a encore démontré face à l'Angleterre. La France n'est pas si impressionnante, mais est tellement réaliste. Donc il faudra jouer avec sa force. Et la force du Maroc, c'est bien sûr sa défense. Et une fois encore, on espère que Walid Regragui, qui a complètement changé cette équipe, puisque on l'oublie souvent, Walid Regragui, c'est pratiquement le meilleur entraîneur de cette Coupe du Monde. Avouons-le, il a complètement changé cette sélection marocaine et on espère qu'il trouvera encore la bonne solution afin de passer l'étape française.
Ahmedine Sy, pour une première finale pour l'Afrique, n'est-ce pas, les Lions de l'Atlas se verraient bien aller plus loin et peuvent compter sur le soutien de tout un pays, de tout le monde arabe et de toute l'Afrique, n'est-ce pas? Comment aborder cette rencontre?
Oui. Ils sont à 90 ou 120 minutes où les séries de pénalty pour entrer définitivement dans l'histoire. Je pense qu'ils sont conscients de cela et j'espère qu'ils vont bien négocier cette avant-dernière partie. Hein. Ils ont le soutien total de tous les Africains. C'est vrai que je suis aux États-Unis, mais vous avez vu à Dakar, au niveau de la place de l'indépendance, les gens sont sortis comme si le Sénégal avait gagné. C'est partout, partout en Afrique, c'est partout dans le monde. Donc le Maroc est tout près quand même. Maintenant, on prie parce qu'en football, on ne peut juger de rien. Un match n'est jamais gagné d'avance. C'est vrai que la France partira avec la faveur des pronostics puisque la France est 18 participations à la Coupe du Monde. Le Maroc, c'est 6. La France, depuis les 6 dernières éditions, ils ont fait ce que personne n'a encore fait. Mais tout cela, on va mettre ça à côté parce que la vérité se passe sur le rectangle vert. Et les Marocains sont prêts pour cela. Et l'entraîneur qui, depuis le début de la compétition, a su trouver le mot juste pour galvaniser ses poulains, je pense qu'il va le faire à merveille. En tout cas, moi, j'y crois. Hein, j'y crois. Le Maroc est capable de se hisser en finale. Le Maroc est capable de battre la France comme l'avait fait le Sénégal en 2002, comme l'a fait la Tunisie lors de cette Coupe du Monde. C'est vrai que ce sont les coiffeurs qui ont joué les remplaçants, mais ce sont des Français. Ce sont des jours qui figurent sur la liste des 26 de décembre. Donc, tout est possible. Et moi, j'y crois, Eric, le Maroc peut se qualifier et donner à l'Afrique une finale pour la première fois de l'histoire.
Amine, est-ce que la portée historique du parcours du Maroc et son enthousiasme, est-ce que ça peut compenser la fatigue des corps et les blessures, parce que cette équipe marocaine est minée par beaucoup de blessures?
Et pas beaucoup de fatigue, mais je pense qu'il y a un shoot d'adrénaline avec la présence du public. Il y a près de 30 vols qui vont arriver entre demain et après-demain de Casablanca. Il y a tous ceux qui sont déjà sur place. Aujourd'hui, le précieux sésame, la chasse au trésor, c'est le billet pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Heureusement que la rencontre se déroulera au stade El Bayt, qui peut contenir près de 60 000 supporters. Ça laissera une marge par rapport au précédent match où le Maroc évolue dans des stades de 40 à 45 000 places. Ce qui est certain aussi, c'est que ce soutien qu'on retrouve des Marocains, des Africains, des Arabes, va certainement peser dans la balance. Les joueurs sont conscients que leur aventure ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont également l'assurance de rester jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, puisque s'ils n'atteignent pas la grande finale, ils pourront disputer la petite, mais aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'éluder le sujet principal. L'objectif principal, c'est d'aller chercher cette coupe. Pour aller la chercher, il ne va pas falloir éliminer les tenants du titre. Avec leur armada de stars, on pense tous à ce duel entre frères, entre guillemets, Hakimi contre Mbappé. On échafaude des plans pour contrer Giroud. On envisage des solutions pour arrêter Griezmann. Et puis, tous les Marocains sont en train d'imaginer comment prendre à défaut le duo Upamecano-Varane. On est présent. On essaie d'aller aux nouvelles concernant l'équipe de France, mais également concernant nos joueurs. Et on a la certitude qu'ils auront besoin du joueur numéro 12, pardon, du joueur numéro 1, parce que depuis le premier match, il n'a jamais failli à la tâche. Et c'est le supporter de base, celui qui vient, qui se sacrifie pour son équipe, qui a volé pendant de nombreuses heures, qui s'est éloigné de sa famille pour pouvoir vivre cette aventure avec l'équipe du Maroc.
Nous, il nous reste moins de 5 minutes pour finir cette édition de Sporama. On va parler de cette première demi-finale demain mardi entre Argentine-Croatie qui va signer sans doute, et quoi qu'il advienne, des adieux probables à la Coupe du Monde d'un géant du football, Lionel Messi ou Luka Modric. Jules, une minute.
Oui, il ne faut pas oublier que la Croatie, c'est la grande Yougoslavie, c'est-à-dire un des plus grands réservoirs, une des plus grandes histoires du football mondial et vice-champion du monde. Donc, c'est vraiment un match très, très équilibré que nous aurons. Et quel que soit le vainqueur, il l'aura mérité sûrement sur le terrain. Moi, c'est ce que je pense. Je ne crois pas que ce soit une équipe, disons, une favorite argentine qui s'oppose à une équipe de Croatie, disons, en ambassadeur. Non, ils y vont avec des chances égales.
On attend beaucoup de Messi. Gilles. Jules. Oui, on attend beaucoup de Messi demain.
Oui, mais Messi, tout le monde joue pour lui. Tout le monde joue pour lui. Donc, lui, il sera là.